Mais bien cher frère, la SNCF vient encore de supprimer un train, ce qui fait que je suis sur un quai de gare. Il fait 0 degré à peu près, peut-être 2 degrés. Et moi j'en profite pour vous enregistrer ce sermon, j'espère que nous ne serons pas dérangés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien cher frère, je vous ai promis un sermon, l'exercice du sacerdoce en période extraordinaire dans l'Église. Période de crise, de persécution, toutes les périodes extraordinaires. Tout d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que le sacerdoce, le prêtre, doit vous aider à vivre la passion de l'Église et à entrer dans le plan de la Providence. Tout est providentiel, les épreuves de l'Église sont elles-mêmes providentielles, et par conséquent, il va falloir entrer dans les vues de Dieu. Premier pouvoir du prêtre, sanctifier. C'est évidemment le premier pouvoir en importance et non pas en chronologie. Je vous l'ai dit, les trois pouvoirs du prêtre sont enseigner, sanctifier et gouverner. Si nous voulons donc savoir comment le prêtre agit en période extraordinaire, nous allons voir comment il enseigne, comment il sanctifie et comment il dirige en période extraordinaire. Donc nous étions au premier pouvoir du prêtre qui est sanctifié, qui est le plus important. Il faut bien vous dire que le prêtre, dès qu'il célèbre la messe, sanctifie le monde et aide l'Église à tenir dans les épreuves, même si les fidèles ne peuvent y assister. Je vous donnerai l'exemple du bon père Bariel, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et qui célébrait 2 messes par jour au séminaire régulièrement. Bien sûr, ce n'est pas très permis, l'Église ne permet pas de célébrer tous les jours 2 messes. Et Monseigneur Lefebvre le taquinait là-dessus, mais jamais Monseigneur ne lui a interdit de dire les 2 messes. Si c'était agi de quelque chose de grave, Monseigneur lui aurait dit, non, écoutez, ce n'est pas raisonnable. Jamais Monseigneur ne lui a interdit. Et le père Bariel lui faisait toujours cette réponse quand Monseigneur le taquinait, mais Monseigneur, vous vous rendez pas compte, le monde a besoin de messe, l'Église a besoin de messe, les âmes ont besoin de messe. C'est-à-dire qu'elles ont besoin du sacrifice eucharistique. Le sacrifice eucharistique du prêtre va s'étendre dans sa prière. La prière du bréviaire, notamment, qui est en union avec le sacrifice de notre Seigneur sur la croix, donc en union avec le sacrifice eucharistique, et elle aussi sanctifie le monde. Quand le prêtre prie le bréviaire, il prie pour le monde, il prie pour toute l'Église, il prie pour toutes les âmes. Enfin, les fidèles doivent s'associer à ces messes qui sont célébrées dans le monde, même s'ils ne peuvent y assister. Je ne vais pas vous refaire mon sermon sur la communion. Réécoutez-le si vous voulez. S'associer en esprit à la messe qui est célébrée, c'est vraiment se mettre au pied de la croix en esprit. Bien sûr, si les fidèles le peuvent, ils doivent s'associer sacramentellement et, dans période de persécution, les fidèles ont toujours bravé les dangers, bravé même la persécution pour pouvoir participer au sacrifice eucharistique. Par exemple, les Vendéens organisaient des messes clandestines avec des fidèles qui surveillaient pour essayer de ne pas être interrompus. Ça ne marchait pas toujours, quelquefois ils étaient interrompus, quelquefois ils étaient tous emmenés. Et là, les révolutionnaires ne pardonnaient pas, c'était la peine de mort et l'exécution. Le pouvoir d'enseignement maintenant, c'est le premier en chronologie, même si ce n'est pas le pouvoir essentiel. Pourquoi est-ce le premier en chronologie? Parce que justement, c'est celui qui permet aux fidèles de s'unir par la foi au sacrifice et au mystère, et qui permet par la foi d'entrer dans les vues de Dieu. C'est lui qui permet l'union en esprit. en faisant que les intelligences pénètrent le mystère de la foi. L'enseignement donné par le prêtre et par les évêques, encore plus bien entendu, est très important en période de persécution. Et d'où l'importance également pour le fidèle de pouvoir faire référence à l'enseignement donné par de bons prêtres, même lorsque ces prêtres se sont tus du fait de la persécution, parce qu'ils sont en prison, parce qu'ils ont été mis à mort, que sais-je. On doit garder précieusement l'enseignement des bons prêtres pour continuer à pénétrer dans le mystère de l'Église, dans le mystère de Dieu, et s'unir à la passion de l'Église. La garantie que vous donnent les évêques et les prêtres en période extraordinaire dans leur enseignement, c'est la fidélité au magistère de l'Église. Parce que, vous voyez, l'enseignement de l'Église est fait pour ça, pour vous éclairer, pour vous permettre d'entrer de vous-même dans le mystère et non pas de rester passif. On vous dira souvent, et les prêtres modernes, les évêques modernes le disent très souvent, ce n'est pas au fidèle de juger, le fidèle doit obéir. D'abord, ce n'est pas une question d'obéissance, il pourrait à la limite dire le fidèle doit se soumettre. Ce n'est pas au fidèle de juger, mais si, c'est pour ça qu'est fait l'enseignement, pour justement permettre de juger. Et c'est comme ça que le fidèle se soumet au magistère de l'Église, non pas en recevant comme un béni oui-oui, mais en comprenant ce qui lui est enseigné et en étant capable, du coup, de juger de la situation et même de juger des hommes. Je me rappelle très bien une fois au séminaire, peut-être vous ai-je déjà raconté cette anecdote. Nous étions tout près de la grande salle de théologie et Monseigneur, pendant la petite récréation, l'intercours de 10 minutes, Monseigneur était là. Nous discutons et je lui fais la remarque, mais Monseigneur, si la crise avance comme cela, mais qu'allons-nous avoir comme enseignement, comme garantie, c'est une vraie peau de chagrin. Où allons-nous trouver l'Église? Et Monseigneur, un petit peu cinglant, comme il savait l'être, me répond, « Ah bon, parce que pour vous, l'enseignement du Concile de Trente, ça vous suffit pas. » Voilà l'enseignement du magistère de l'Église, le Concile de Trente ou Concile Vatican I, ou l'enseignement des papes sur les épreuves de l'Église, parce que Dieu sait s'ils en parlaient. Cet enseignement est justement fait pour nous éclairer. Vous avez, mes bien chers frères, les dons du Saint-Esprit qui vous permettent de bien comprendre et de ne pas comprendre à l'envers, qui vous permettent de bien discerner les prêtres qui enseignent véritablement selon l'Église et ceux qui enseignent selon les nouveautés du monde. Et je vais vous raconter une petite histoire sur ce pouvoir d'enseignement du prêtre, enfin l'importance du magistère. C'est raconté par Maria Winowska dans un de ses deux livres, je ne sais plus si c'est « Du sang sur les mains » ou bien « Les voleurs de Dieu » sur les persécutions en URSS. Deux religieuses qui sortent du camp où elles sont prisonnières pour faire des travaux, se perdent dans le blizzard, dans une tempête de neige. Et le bon Dieu permet que, croyant retrouver leur chemin, elles partent complètement à l'opposé. Puis, tout à coup, elles tombent sur un petit édifice. Ben là, elles sont sauvées. Cet édifice est l'entrée d'un monastère clandestin. La maison a une cave, et dans la cave, il y a une chapelle clandestine. Les religieuses qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, que sais-je, qui dans la journée sont obligées de sortir pour ne pas se faire repérer, elles travaillent comme tout le monde. Mais le soir, la nuit, le matin, elles sont de véritables religieuses. La première chose que la mère supérieure demande à ces religieuses qui lui sont envoyées du ciel, faites-nous passer un examen de catéchisme pour être sûr que nous n'avons pas dévié dans la doctrine. Parce que la doctrine, c'est ce qui permet de garder l'union à Dieu. Enfin, troisième pouvoir du prêtre et des évêques, bien entendu, le pouvoir de direction, c'est-à-dire ce que les fidèles doivent demander au prêtre et ce que le prêtre doit légitimement donner aux fidèles. Je vous cite le canon 682 du code traditionnel, bien évidemment, je ne vais pas vous citer le code moderne. Même si beaucoup de prêtres traditionnalistes font référence au code moderne, parce qu'ils n'ont rien compris. Canon 682, les laïcs ont le droit de recevoir du clergé, conformément aux règles de la discipline ecclésiastique, les biens spirituels, et spécialement les secours nécessaires au salut. Je répète, les laïcs ont le droit de recevoir du clergé les biens spirituels, et spécialement les secours nécessaires au salut. Fin de citation. Par conséquent, lorsque l'organisation sociale déraille et subvertit les sacrements et même l'union à Dieu, la juridiction des chefs cesse d'être légitime. Pourquoi elle cesse d'être légitime? Parce que justement, ils empoisonnent, ils subvertissent, ils utilisent de façon illégitime un pouvoir qu'ils ont reçu légitimement, bien sûr, mais ils ne l'utilisent pas légitimement. Et même s'ils demeurent les chefs, l'Église approuve l'action de ceux qui sauvent la situation. Et c'est ce qu'on appelle la juridiction de suppléance, qui est fondée justement sur le canon 682. Monseigneur Lefebvre, c'est en quelque sorte le fidèle qui, en demandant les sacrements et la doctrine, bien sûr, au prêtre, lui donne la juridiction. Monseigneur nous dit, du moment qu'un fidèle a besoin des sacrements, des secours spirituels, des conseils, même de la confession ou des conseils à recevoir, il s'adresse à un bon prêtre, et ce bon prêtre doit répondre à son attente, canon 682, il le fait selon la volonté de l'Église, toujours canon 682, et d'une certaine manière, c'est ce qui rend légitime l'intervention de ce prêtre. Cette juridiction de suppléance permet en toute sérénité de paître le troupeau, de lui donner les sacrements, et même, de la part du prêtre ou des évêques, de prendre la place des pasteurs qui seraient légitimes s'il n'y avait pas de situation extraordinaire. L'évêque de Reims, par exemple, écrivit à Mgr Lefebvre pour lui reprocher de venir donner le sacrement de confirmation dans son diocèse. Mgr lui répondit « Si vous étiez un digne successeur de Saint-Rémy, je n'aurais pas besoin de me déplacer. Mais étant donné tous les doutes et tout le modernisme, je suis bien obligé de répondre à la demande des fidèles. » Cette juridiction de suppléance permet de former ceux qui doivent tenir dans les épreuves. Je vous l'ai déjà dit dans le sermon précédent, il ne s'agit pas évidemment de prendre les fidèles en main comme on prend un troupeau de bœufs qu'on mène à la baguette. Il s'agit de former ceux qui vont savoir exercer leur vertu de prudence pour vivre conformément à la foi au milieu des épreuves. Je vais vous donner l'exemple de Saint Eusèbe de Samosat, qui était un évêque catholique exilé sous la persécution arienne. Et ceci est raconté par Saint Eusèbe de Césarée dans son histoire ecclésiastique, son histoire de l'Église, qui justement rapporte cela pour nous montrer comment l'Église vit en période de persécution. Saint Eusèbe de Samosate, étant exilé, en profite dans toutes les villes, que de petites à l'époque qui étaient des bourgades, mais où il y avait un évêque, il y avait énormément d'évêques à l'époque. Dans toutes les villes où il y a un évêque, il se renseigne, et lorsque l'évêque est arien, ce qui est hélas la plupart du temps le cas, il destitue l'évêque, il réunit le clergé fidèle, il demande d'élire un nouvel évêque fidèle et donc catholique, il le sacre et il l'établit sur le troupeau. Imaginez Mgr Lefebvre se rendant à Saint-Nicolas du Chardonnay, déclarant que l'évêque de Paris a cessé d'être l'évêque des Parisiens parce qu'il est moderniste, demandant aux traditionnalistes d'élire un nouvel évêque, le sacrant, et continuant sa tournée de ville en ville pour répéter l'opération. Mgr Lefebvre a eu raison d'être sage et prudent et d'agir comme il a agi. Mais saint Eusèbe de Samosate, vous voyez, ne se gêne pas pour exercer son pouvoir épiscopal dans sa plénitude partout où il passe. Mgr Lefebvre, lui, sacrera 4 évêques, ce qui est largement suffisant, ce qui était largement suffisant. Il ne s'est pas occupé de déclarer que les évêques locaux n'étaient pas légitimes. C'est une question de prudence. Il a fait largement ce qu'il avait à faire en nous donnant 4 évêques, et même si malheureusement 3 ne sont pas restés fidèles. Saint Eusèbe de Samosate ne fut pas le seul. Beaucoup d'évêques exilés par les Ariens, même s'ils n'allaient pas jusqu'à sacrer des évêques, encore que plusieurs l'ont fait, circulaient, encourageaient les fidèles, les soutenaient, faisaient exactement ce qu'a fait Mgr Lefebvre et ce que fait Mgr Williamson encore aujourd'hui, Mgr Faure, etc. Ils desservaient les bons catholiques sans s'occuper de la présence de la hiérarchie, qu'on pourrait dire officielle, mais qui était déchue de sa dignité. Je reprends ce sermon après avoir été dérangé par un brave musulman qui voulait absolument discuter avec moi. Et je termine sur le devoir que vous avez de profiter des bons prêtres. Il y a une corrélation pour le bien de l'Église entre notre devoir à nous, prêtres, et aux bons évêques, et vous, fidèles, de chercher les bons prêtres et les bons évêques. Le canon 682 crée une obligation aussi bien pour nous que pour vous. Des bons prêtres et des bons évêques, je vous ai donné les critères pour les connaître, c'est la fidélité à la tradition et au magistère de toujours, la fidélité à la foi. Je vous ai dit que vous serez très aidés par les dons du Saint-Esprit. La condition pour que les dons du Saint-Esprit soient actifs en nous et en vous, c'est de ne pas contrister le Saint-Esprit. Il y a donc un devoir de délicatesse envers le bon Dieu qui assure la fidélité de ceux qui cherchent à aimer Dieu, et à l'inverse, ceux qui ne sont pas délicats envers le bon Dieu et envers le Saint-Esprit, saint Paul dit, ceux qui contristent le Saint-Esprit, se mettent en danger de ne pas pouvoir entendre la voix du Saint-Esprit et par conséquent de dérailler. Je pense à tous ceux qui fricotent avec le monde moderne, que ce soit les moyens modernes d'une part, ça commence par là chez les jeunes, et puis après ça on prend l'esprit du monde. On ne se rend pas compte qu'on en prend, on en laisse, on devient un petit peu libéral. Mais si vous avez une grande dévotion à la Sainte Vierge, particulièrement si vous lui êtes consacré, selon la méthode de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, si vous avez une grande délicatesse envers le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à tricher avec votre devoir, avec les commandements de Dieu, que vous n'avez pas peur d'être un peu coincé, comme on dit dans le monde aujourd'hui, alors soyez absolument certain que le bon Dieu ne vous laissera pas tomber, au contraire, et qu'il saura vous guider. Si vous n'avez pas de prêtre, sachez qu'il y en a encore, qui célèbre la messe, qui prie pour vous, parce que j'ai pas pensé à vous le dire, mais la prière du bréviaire est une prière officielle de l'Église, c'est-à-dire que le prêtre agit au nom de l'Église lorsqu'il prie pour vous son bréviaire. Et puis pour le reste, soyez bien en paix, le bon Dieu vous gardera toujours, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.